Voilà, bonjour à tous et à toutes. Voilà, je suis l'ombre d'Henri, comme il dit. Non, c'est une joie pour nous d'être là ce matin, de pouvoir aussi partager la parole de Dieu. Je remercie mon beau-père et ma belle-mère qui ont la confiance aussi de nous laisser la place pour apporter la parole. Je dis nous parce qu'elle prie pour moi pendant que je suis là. Vous savez, mon épouse prie pour moi et je crois que le Seigneur va nous bénir. J'aimerais qu'on commence en priant. Ce moment de partage, vous voulez bien ? Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ce privilège d'être là ce matin. Nous avons déjà passé un moment en ta présence. Mais Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole. Seigneur, aide-moi aussi à apporter vraiment le conseil qui vient de toi, de ton Saint-Esprit. Oh Seigneur mon Dieu, enseigne-nous, montre-nous encore ta voix. Merci parce que tu es là et tu vas agir, intervenir dans les cœurs et les vies. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Alors, vous savez, en tant que pasteur, des fois, il y a des messages un peu difficiles à apporter. Et je crois que, en tant que pasteur, on vit les douleurs de l'enfantement. Des fois, alors je sais que vous y croyez pas du tout, mais nos épouses le croient. Elles savent que ça fait peut-être une semaine, deux semaines, un mois des fois qu'on est là, on a quelque chose sur le cœur, mais difficile à apporter. Et quand j'étais au milieu de vous, j'ai vraiment eu cette pensée sur le cœur de ce message de ce matin. Le titre de ce message, c'est « De la crainte à la sainteté ». De la crainte à la sainteté. Alors on va lire un passage ensemble. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à les prendre parce que on va lire pas mal de passages ce matin. Je vais essayer de ne pas être trop long. J'ai 6 feuilles, donc ça fait à peu près 2-3 heures, ça vous va? C'est bon, on a jusqu'à cet après-midi, c'est le 14 juillet, non? On commence dans Proverbe. Proverbe chapitre 9, verset 10. Un passage de la Bible qui est important pour nous, que vous connaissez, je suis sûr. Ce passage nous dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » Alléluia. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est-à-dire là où commence la sagesse, c'est quand on craint Dieu. C'est pas « je crains Dieu pendant un temps et puis je commence à être sage ». C'est le commencement. C'est à partir de ce moment-là où je peux dire « j'ai commencé à être un homme, une femme sage, rempli de sagesse, rempli de la volonté de Dieu, rempli de la crainte de Dieu dans mon cœur ». Alors quand on entend la crainte de Dieu, j'aurais pu mettre peut-être un bruitage là, d'orage, d'éclair, de feu, hein. Vous savez comme on va dans certains cinémas, il y a même la chaleur qui vient. Alors j'aurais aimé faire ça ce matin pour vous montrer peut-être, pour imager, mais la crainte de Dieu, ça fait partie de la peur, mais ce n'est pas que ça. La crainte de Dieu, ce n'est pas seulement « j'ai peur, je vois Dieu et j'ai peur, je tombe à genoux ». Vous savez qu'il y a des hommes qui sont tombés à genoux. Daniel, alors qu'il a une vision de Dieu, il a une vision de la volonté de Dieu, va tomber par terre tout tremblant, à plus pouvoir se relever. Il va devoir être relevé par celui qui est le chef d'Israël, celui qui est là, l'ange de Dieu va venir et va le relever. Pourquoi ? Parce qu'il a la crainte. Moïse, plusieurs fois a eu la crainte de Dieu face à la montagne en feu avec les orages, tout ça. Il avait la crainte de Dieu. Il disait qu'il était tremblant, comme angoissé dans son cœur. Et combien dans la Bible on voit au travers des passages ont eu cette crainte-là, à tomber à genoux devant Dieu. Mais la crainte de Dieu, ça en fait partie, mais c'est pas que ça. La crainte de Dieu, c'est aussi à un moment donné faire passer Dieu avant. Faire passer Dieu en premier. Amen. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est faire passer la volonté de Dieu avant mon propre plaisir. La crainte de Dieu, c'est aussi croire que Dieu a toute autorité sur ma vie et le laisser avoir toute autorité. C'est à un moment donné dire « oui, ma vie lui appartient, tout en moi est à lui et je n'ai plus rien, même si Dieu me dit « va là-bas, j'y vais ». Si Dieu me dit « fais comme ça, je fais comme ça ». Si cela ne fait pas plaisir à Dieu, alors je ne le fais pas. Ça, c'est aussi avoir la crainte de Dieu. Il est dit dans 1 Corinthiens 10, verset 23, on n'est pas obligé de l'afficher, « tout est permis, mais tout n'est pas utile, tout est permis, mais tout n'édifie pas ». En fait, Paul est en train de nous dire que ce qui n'est pas péché est permis. Mais tout n'a pas forcément une utilité dans notre vie. Tout n'a pas forcément le plaisir de Dieu. C'est-à-dire que je peux faire quelque chose qui n'est pas interdit, mais qui ne fait pas forcément plaisir à Dieu. Qui ne lui convient peut-être pas forcément. Vous savez, la vie basique du lait spirituel, c'est ça j'ai droit, ça j'ai pas droit. Ça, c'est le début quand on commence avec Dieu. Pour commencer à comprendre qui est Dieu, commencer à comprendre ce qu'il a pour nous, on commence par « ça j'ai droit, ça j'ai pas droit », comme un enfant. Au départ, les parents disent « ça tu as le droit, ça tu as pas le droit ». Non, là il faut pas. Là tu dépasses la limite. Et c'est comme ça qu'on agit avec Dieu, c'est comme ça qu'on comprend la volonté de Dieu. Mais à un moment donné, je crois, quand on passe à la viande, est-ce que vous aimez la viande ? On a découvert un restaurant chez vous, Beef House, c'est pas trop mauvais. Il y avait pas mal de viande de tous les pays, là on ne savait plus lequel choisir. On aime la viande, on aime ce qui est dur. Et si on a de quoi choisir entre une viande et des haricots en général, enfin je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça se voit un peu d'ailleurs, je commence à avoir un petit bébé là. C'est ça l'enfantement, vous savez, c'est ça. Et la viande, c'est ce qui est dur, c'est ce qui nous donne des forces. Et à un moment donné, quand je passe à la viande, quand je passe au dur spirituel, je comprends que c'est plus ça c'est pas bien, ça c'est bien. Mais ça c'est pas bien, ça c'est bien, je le connais, je sais ce qui fait plaisir à mon Dieu, je sais ce que je n'ai pas le droit et ce que j'ai le droit. Mais à un moment donné, est-ce que je fais plaisir à Dieu ? Est-ce que mon chemin fait plaisir à Dieu ? Est-ce que je me pose toujours la question, vous connaissez cette question, que ferait Jésus ? À ma place. Alors, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Je suis sûr que je suis devant des hommes et des femmes qui sont sages, mais j'aimerais voir avec vous la sagesse d'un homme qui malheureusement a été sage, sage comme on n'aurait jamais pu être, mais qui va laisser la crainte de Dieu à un moment donné. On trouve ce passage dans un roi, on peut l'afficher, un roi chapitre 4, versets 29 à 34, si vous avez vos Bibles. Je vous invite à lire avec moi. Un roi chapitre 4, versets 29 à 34. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, les Zrachites, plus qu'Éman, Calcol et Darda, les fils de Machol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Est-ce que vous voulez une sagesse comme ça ? Vous voyez toute la nature, vous comprenez tout facilement. Je pense que pour ceux qui ont passé le bac, ils auraient aimé avoir cette sagesse juste avant, là. Comprendre tout facilement, avoir cette sagesse, cette connaissance qui dépasse tous les hommes. Cet homme a été béni, on va dire, à outrance. Pardonnez-moi le mot, mais il a été béni à outrance, béni au-delà de tout ce qu'il aurait pu espérer. Tout simplement, vous savez pourquoi ? Parce qu'il a craint Dieu. Parce qu'il avait la crainte de Dieu. Alors que Dieu va lui demander, mais qu'est-ce que tu veux ? Il vient de prendre le trône de son père, David. Et alors que Dieu lui demande, qu'est-ce que tu veux ? Il aurait pu demander des richesses, il aurait pu demander tellement de choses. Mais à ce moment-là, il se dit, mais moi je ne suis rien. Je ne suis pas capable de gérer ce peuple d'Israël, je suis rien. On le voit dans un passage aussi dans un roi, il est dit, Salomon dit maintenant, éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père, et moi je suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Une simple prière. Seigneur, accorde-moi de bien servir comme là où tu m'as placé. Accorde-moi simplement d'avoir un cœur sincère, de savoir faire la différence entre le bien et le mal. Et ça, ça plaît à Dieu. Est-ce que vous faites souvent cette prière ? Je crois que c'est une prière importante à faire dans notre vie chrétienne. Quand on avance, quand on va plus loin avec Dieu, à un moment donné, il faut savoir dire « Seigneur, je t'en supplie, change-moi, aide-moi à être meilleur, aide-moi à aller de l'avant, aide-moi à comprendre ce que tu attends de moi, aide-moi à faire la différence entre le bien et le mal et à pouvoir faire ce qui te fait plaisir. » Salomon n'a pas regardé à ce qui lui faisait plaisir. Il a regardé à ce que Dieu attendait de lui. À ce qui allait faire plaisir à Dieu. Et ça, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Cette demande plus à Dieu, plus au Seigneur. Salomon est un homme qui craint Dieu, et c'est pour ça qu'il a été béni. On parle souvent des richesses de Salomon. On parle souvent de tous ces hommes, ces femmes qui venaient voir toutes ces belles choses que Salomon a fait, toutes ces belles choses que Salomon disait. Mais je crois que le plus beau trésor de Salomon, c'était la crainte de l'Éternel. Qu'on ne vienne pas nous voir pour notre connaissance. Que l'on ne vienne pas nous voir pour notre intelligence. Que l'on ne vienne pas nous voir pour nos richesses, mais qu'on vienne nous voir en disant « Si tu veux un conseil de Dieu, va voir celui qui craint Dieu ». Qu'on puisse dire, mais cet homme, cette femme, est là, il craint Dieu, il plie les genoux devant Dieu, et je sais que je peux aller le voir, je peux aller la voir. Pourquoi ? Parce que je vais avoir un conseil qui vient directement de Dieu. Je crois que c'est ça aussi, ce que cherchaient les hommes, les femmes qui venaient le voir. Avant de demander la crainte de l'Éternel, avant de demander cela, peut-être il faudrait comprendre pourquoi Salomon dit cette prière. En fait, Salomon... Il a vu son père. Salomon, il sait qui est David. David, le grand roi d'Israël. Et David était l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Un exemple aussi pour nous. David était un homme qui connaissait son Dieu. C'est pour ça qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Et au moment où Salomon fait cette prière en disant « Mais Seigneur, donne-moi l'intelligence de pouvoir gérer ton peuple, juger la nation que tu m'as donnée », il va citer toutes les bénédictions que Dieu a fait à David. Oui, tu l'as établi sur le trône. Oui, tu l'as béni. Oui, tu as été avec lui. Oui, tu l'as accordé en ta présence. Et en fait, il avait cet exemple, ce bon exemple d'un homme qui craint Dieu. Nous avons besoin, au milieu de nous, dans nos églises, des hommes, des femmes qui sont des piliers dans la crainte de Dieu. Des hommes, des femmes en qui on peut se référer. Une église qui n'a personne à qui se référer, qui vit dans le désordre, ne peut pas avancer, ne peut pas aller plus loin. Il faut qu'il y ait des hommes qui se lèvent, des femmes qui se lèvent et qui disent « Oui, moi je veux craindre Dieu, je veux être un exemple, je veux vivre selon la volonté de Dieu. » Amen. Alléluia. Salomon avait l'exemple de son père David et il connaissait ce que Dieu faisait au travers de son père. Et c'est peut-être ça qu'il a perdu. Il vivait sa relation avec Dieu au travers de ce que David avait vécu. Il vivait sa relation avec Dieu au travers de la bénédiction qu'il avait apportée à David. Il n'était pas en train de dire, mais avant que je devienne roi, tu m'as béni. Avant que je devienne roi, tu m'as donné ça. Il était en train de dire, avant que je devienne roi, tu l'as donné à mon père. Et je crois que c'est ça qui, à un moment donné, a fauté dans sa vie. C'est que, au lieu de chercher la face de Dieu, de savoir comment le connaître, comment savoir qui il est réellement, il va s'arrêter simplement à une connaissance partielle de qui est Dieu. N'était pas comme l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi ? Parce que il ne connaissait pas assez bien son Dieu. Et vous savez, souvent, on fait des prières un peu rapides. Il y a des prières évangéliques, vous savez. Et ces prières évangéliques, je suis pas du tout en train de condamner qui que ce soit là, ou de reprendre qui que ce soit. Comprenez bien, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais souvent, on devrait faire attention à ce qu'on dit. Quand on dit « Seigneur, prends toute ma vie », on devrait faire attention. « Seigneur, donne-moi la sainteté », t'es sûr que tu veux la sainteté ?« Seigneur, donne-moi la crainte », t'es sûr que tu veux avoir la crainte ? Un jour, j'ai fait une prière, l'affaire. Je vous ouvre un peu mon cœur ce matin. J'étais au début de ma conversion et j'avais soif de voir plus avec Dieu. Alors je crois que ma belle-mère ne sait pas ça. Mon beau-père va l'apprendre aussi. Il va me dire, mais c'est pas possible celui-là. Mais il me connaît, hein, c'est lui qui m'a baptisé. Donc il sait que je suis pas toujours normal dans ma tête. Mais je fais une prière un soir. Je me mets dans ma chambre et je me dis, je veux vivre plus. Sauf que c'est une prière, je veux vivre plus, mais je veux vivre l'extraordinaire. Et je dis à Dieu, aujourd'hui, je sortirai pas de ma chambre avant d'avoir vu un ange. Une prière à jamais faire. Je vous assure, c'est quelque chose qu'il faut jamais faire. Et j'aurais pu dire, Seigneur, je veux pas sortir avant que tu m'aies béni. Peut-être comme Jacob. Ou alors, je veux pas sortir avant de recevoir le Saint-Esprit encore plus sur moi ou d'exercer les dons. Je dis une prière trop bizarre, on pourrait dire, ouais. Et je dis, Seigneur, je veux pas sortir avant d'avoir vu un ange. Et vous savez quoi? J'étais en train de prier et d'un coup, je sens quelque chose dans la chambre. Je sens une présence avec moi. Mais c'est pas la présence normale, vous sentez, c'est la présence qui donne la crainte, mais la crainte de la peur, où vous voulez partir en courant. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis levé de ma chambre, j'ai allumé toutes les lumières, je suis parti en courant, et là, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, mais est-ce que tu sais ce que tu es en train de demander? Est-ce que tu sais ce qui sort de ta bouche? Est-ce que tu crains Dieu? Au point de demander une chose comme cela. Bien sûr, vous avez compris, j'ai pas vu d'ange. Mais Seigneur m'a fait sentir que ce que j'étais en train de demander dépassait mon entendement, dépassait ma volonté, que ce que j'étais en train de demander n'était pas sage. Pourquoi ? Parce que je demandais pour voir, pas pour être. Et c'est ça qui fait la différence dans nos prières. On devrait faire attention, parfois, comment on parle. Est-ce que tu connais réellement Dieu ? Est-ce que tu sais qui il est ? Est-ce que tu le connais au point de dire « Oui, je crains mon Dieu parce que je sais qu'il fait cela, je sais qu'il est comme cela, je sais que c'est un Dieu bon, un Dieu d'amour, on le dit souvent, mais c'est aussi un Dieu juge, un Dieu qui condamne justement, un Dieu qui peut, à un moment donné, comme on le voit dans le Nouveau Testament, au début de l'Église, c'est quelque chose qu'on voit peu maintenant, mais il y a un homme et une femme qui veulent tromper Dieu, qui veulent à un moment donné tromper le Saint-Esprit, ils vont vendre un champ, garder une partie et dire « On a tout vendu pour l'œuvre de Dieu ». Et à ce moment-là, le Saint-Esprit condamne. Ils meurent tous les deux. C'est pas la conception de Dieu qu'on a. Ah non, mais Dieu fait grâce. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu, c'est un Dieu de paix. Dieu, c'est un Dieu de joie. Mais il faut pas oublier que celui qui a la crainte réellement, c'est il connaît son Dieu d'amour, il connaît son Dieu de joie, son Dieu de paix, mais il connaît aussi le Dieu juge juste. Il connaît le Dieu tout-puissant, celui qui a tout créé, celui avec qui on ne s'amuse pas. C'est ça aussi, avoir la crainte de Dieu. Avant de demander à Dieu, je veux la crainte, alors il serait bon de dire, mais Seigneur, je veux mieux te connaître. Dieu, je veux savoir qui tu es réellement, même peut-être si ça me fait peur, même si ça va pas dans ma conception de la vie chrétienne, c'est pas grave, je veux te connaître. Et Salomon est là, il vit l'habitude, il vit sa vie comme il est, comme ça, et alors qu'il vit l'habitude au quotidien, il commence à plus avoir la crainte de Dieu. Il commence à lâcher prise. Et là, il va avoir une femme, et deux, et trois, déjà une, c'est... Non. Je vois les maris, de coup, ils sourient. Les femmes, un peu moins, excusez-moi. Cet homme qui a commencé avec la crainte de Dieu va avoir... Vous savez combien de femmes il aura? Vous savez? À peu près 1000, ouais. Il a eu 700 princesses, 300 concubines, et toutes ces femmes ont saisi son cœur. Il nous est dit que vers la fin de sa vie, pourtant Dieu l'avait béni, lui avait donné au-delà de tout ce qu'on peut demander. Et il nous est dit, à la fin de sa vie, ces femmes vont incliner son cœur vers d'autres dieux. Il va créer des hauts lieux à tous ces abominations de Moab, de Kémosh, tout ça, tous ces abominations qui sont là. Il va créer des lieux où on peut sacrifier à des idoles. Comment Salomon, qui a créé le plus beau temple à l'Éternel, qui a créé le plus bel endroit où on peut sacrifier à l'Éternel, qui est un homme de Dieu, finit par créer des lieux pour les idoles. Il n'avait plus la crainte. Et la crainte qui est partie avec la sagesse. Il avait toujours la connaissance, il avait toujours l'intelligence. Les gens venaient le voir, il avait toujours les richesses. Mais il a perdu la sagesse, pourquoi ? Parce qu'il n'avait plus la crainte de Dieu. Mon frère, ma sœur, si tu dois veiller à quelque chose ce matin, veille sur la crainte que tu as de ton Dieu. La crainte de ton Dieu amène à la sagesse. Mais quand la connaissance, quand la tradition, quand peut-être le monde, le charnel prend le dessus sur ta crainte, alors tu es en train de perdre pied et tu es en train de partir vers les idoles, partir vers l'idolâtrie, partir vers le charnel, vers l'enfer. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, la crainte n'est plus là. Qu'est-ce qui prend le dessus dans ta vie ? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer ? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller plus loin ? Est-ce que peut-être c'est une conscience particulière, une manière de voir particulière ? Est-ce que peut-être c'est ta conception de la vie chrétienne ? Vous savez, souvent on voit la vie chrétienne un peu bisounours. Mais là, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tout est super, et quoi que je fasse, de toute façon je ne serai pas condamné. C'est souvent ça. Et ça, c'est les fausses doctrines qui viennent dans notre vie. Et souvent, ces fausses doctrines, en général, vont vous pousser toujours à croire que vous pouvez avoir le salut et l'amour de Dieu sans la crainte, sans la consécration, sans la sainteté, sans l'humilité, sans la sagesse. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, les richesses. Alors, si vous donnez un peu plus d'argent, vous savez, si vous donnez un peu plus d'argent, vous serez plus béni. Si vous donnez peut-être plus de, je sais pas moi, de biens, de toutes sortes de choses. Si vous vous dites, ben c'est bon, de toute façon, ma tradition, c'est comme ça, je suis comme ça. Et puis, on croit qu'on obtient la vie éternelle de cette manière. Vous savez, Dieu est venu au travers de son Fils Jésus, il a payé le prix. Mais si on néglige le prix, on va le voir tout à l'heure, si on néglige le prix payé, à un moment donné, la bénédiction, elle n'est plus pour nous. Et ça, il faut l'entendre aussi. Il faut le comprendre aussi. Ce qui fait la différence entre Salomon et David, c'est l'humilité. La crainte de l'Éternel amène à la sagesse. Et la sagesse devrait nous amener à l'humilité. Et c'est là souvent où on n'arrive pas à passer le stade. Oui, je veux craindre l'Éternel, je veux comprendre qui il est, je veux mieux le connaître, mais l'humilité, ah non, il faut pas m'en parler. L'humilité, ça va, je me suis déjà assez humilié. Les deux, Salomon et David, les deux ont bien commencé. Les deux ont été bénis par Dieu. Les deux ont fait des erreurs, les deux ont péché. Mais un est parti sans être près de Dieu, et l'autre est parti pardonné, recevant la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui fait la différence ? C'est l'humilité. Dans le Proverbe 15, verset 33, il est dit « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse ». Et on trouve ce verset qui n'est pas coupé. C'est directement avec. Et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Comme si c'était ensemble, comme si ça allait avec, ça se complétait. David connaît Dieu et il est rempli d'humilité et c'est ce qui fait qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est pas que la sagesse, c'est pas que la crainte de Dieu, mais l'humilité dans son cœur fait de lui l'homme selon le cœur de Dieu. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a Bathsheba. Comment on explique ça alors ? Si c'est un homme qui a la crainte de Dieu, si c'est un homme qui a la sagesse, si c'est un homme qui a l'humilité, et c'est un peu pareil que la sagesse tout à l'heure, on peut perdre l'humilité. Vous savez, quand on vous fait des compliments, alors c'est bien de faire des compliments, attention, hein, parce que des fois on arrive dans un extrême dans les églises où il ne faut surtout pas féliciter, il ne faut surtout pas te faire de compliments, mais comprenez bien, il y a des fois des compliments, et j'en parlais avec ma femme il y a plusieurs années, au début de conserver avec Dieu, vous savez, il y a des gens qui viennent vous voir, ils font des compliments, mais c'est en fait c'est du poison, vous savez, c'est vraiment pour vous élever, c'est vraiment pour dire, prends un peu d'orgueil là, je te donne un peu d'orgueil, prends-en, ce serait bon que tu prennes un peu d'orgueil, et là, on commence à s'élever et à se sentir pour quelqu'un. Aïe, aïe, aïe. Moi, je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un dans la société, je suis quelqu'un dans l'église, je suis quelqu'un de respecté. Moi, je suis quelqu'un. Ça, c'est pas bon. Parce que ça va nous amener à la chute. L'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. David, alors qu'il se prend pour quelqu'un, tous les rois partent en campagne. Tout son peuple, tous les hommes forts partent en campagne. Et lui, il se dit, je vais rester au château, je suis le roi, quand même. J'en ai assez fait. Toutes les guerres au temps de Saül, où j'allais tuer les Philistins. Toutes les fois où je sortais devant le peuple pour aller combattre. Mais maintenant, je vais me reposer un peu. Je vais rester chez moi. Je vais profiter de mon royaume. Et pire que ça, il sort sur la terrasse. Et il est en train de regarder, de contempler son royaume. Waouh ! Quel danger ! Qu'est-ce que c'est beau ! Tout m'appartient. Tout est à moi. Et là, dans le paysage, il y a une femme. Pauvre femme. Elle est là. Seule. Et David va faire quelque chose de très particulier. Vous savez, le péché s'immisce au moment où on a l'orgueil. L'orgueil crée une brèche. Le péché s'immisce. Et à un moment donné, si on n'a pas l'humilité de dire « là, je vais trop loin », alors c'est trop tard. Et David va laisser la brèche s'ouvrir et l'ennemi passer. Il va dire « mais qui est cette femme ? Pourquoi ? Pourquoi il demande ça ? Il a déjà plusieurs femmes, il est agréablement béni, que ce soit financièrement, de toutes les manières, spirituellement. Pourquoi il demande « mais qui est cette femme ? » Et le pire en plus, c'est que ses serviteurs lui disent « mais c'est Bathsheba ! » Elle est mariée. Aïe, amenez-moi là. Et là, il va pécher avec cette femme. Et je crois que le plus dur dans cette histoire, c'est que, un détail qu'on parle peu, mais il est dit à la fin de ce passage où il y a ce péché avec Bathsheba, il dit, elle se purifie de ses souillures et elle rentre chez elle. En fait, l'histoire, elle se termine là. Pour David, j'ai péché, j'ai fait le mal, oh c'est bon, elle s'est purifiée de ses souillures là, moi peut-être aussi de mon côté, et puis c'est réglé. On n'en parle plus, son mari va revenir, on n'en parle plus. Mais avec Dieu ça ne se passe pas comme ça. On peut cacher longtemps le péché, mais un jour ou l'autre il ressort. Un jour ou l'autre il est mis à jour. Et à ce moment-là, j'espère qu'on aura cette humilité de dire « Non, mais Seigneur, change-moi. » Et alors que là, il y a cette femme qui tombe enceinte, son péché est dévoilé, il se dit « Mais c'est terminé pour moi. » Il va monter un plan. Il continue dans l'orgueil. Il continue à manquer d'humilité. Il continue à manquer de sagesse. Mais David, selon le cœur de Dieu, comment fais-tu pour en arriver là ? Il n'a plus la crainte. Et vous connaissez cette histoire, il va tuer le mari de cette femme, il va la prendre pour épouse. Et ça va déplaire à Dieu. Toute cette histoire va déplaire à Dieu. L'orgueil est assez subtil. Parfois, il se déguise en toutes sortes de phrases un peu évangéliques, vous savez. Ces phrases évangéliques qui sont là, mais oui, mais moi c'est parce que je suis timide. Oui, mais moi, je suis quelqu'un peut-être de bien, mais je peux être pardonné, j'ai fait le bien. J'ai fait ma bonne action. Oui, mais Dieu sait comment je suis, c'est ma tradition. Oui, mais Dieu sait comment je suis, mes parents étaient comme ça, mes grands-parents étaient comme ça, donc je suis comme ça, c'est dans mes gènes. C'est mon caractère. Attention, l'orgueil parfois est très subtil. Je suis chrétien. Regarde tout ce que je fais pour l'Église. Regarde le chèque que je fais chaque mois. Combien marche comme ça ? Ah oui, mais Dieu sait. Dieu sait tout. Dieu sait qui je suis, il me fera grâce. Est-ce qu'il fera grâce ? Je ne suis pas tellement sûr. Il fera grâce sur cette terre, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il fera grâce là-haut ? Celui qui a la grâce de Dieu là-haut, c'est celui qui se repent réellement et qui part de ce monde repenti, pas celui qui a dit « Oui, mais moi, je vais m'expliquer avec Dieu ». On l'entend souvent, ça, dans la rue. On a fait quelques années dans la rue. On entend souvent « Ouais, mais moi, je vais dire ce que je pense à Dieu. Hein. » Waouh ! Ça se voit que tu connais pas Dieu, hein, parce que si tu crois, tu... Et certains pensent être comme ça un peu. Oui, mais Dieu sait. Dieu sait. Et cet orgueil va faire de David un adultère. Mais va faire aussi que l'adultère devienne un meurtre. David ne s'arrête pas. Il continue, à l'image un peu de Salomon. Ce qui fait la différence dans la vie de David, c'est que malgré tout, malgré la faute, il sait s'humilier et il sait accepter les conséquences. Et j'aimerais vous parler un instant, avant de conclure avec un dernier point, j'aimerais vous parler un instant de ce sentiment d'accepter les conséquences. Ce sentiment d'humilité qui doit être dans nos cœurs. De croire qu'on ne contrôle pas tout. De croire qu'on ne sait pas tout. Alors que Samuel vient voir David, il lui dit « Mais pourquoi ?» 2 Samuel, chapitre 12, verset 9. On va le lire si vous voulez bien. 2 Samuel, chapitre 12, verset 9 à 14. Il dit dans ce passage, « Pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux ? Tu as frappé par l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et tu l'as fait mourir par l'épée des fils d'Ammon. Et maintenant, l'épée ne se retirera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici je vais susciter le malheur contre toi. » De ta maison même, et je prendrai sous tes yeux tes femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil, car tu as agi en secret, mais moi je ferai cela en présence de tout Israël à la face du soleil. » Et David dit à Nathan, la condamnation vient de tomber. Peut-être plusieurs se seraient énervés en disant « Oh, comment tu me parles ? Oh, moi je suis quelqu'un. Moi je suis allé à l'église depuis 40 ans et parce que j'ai fait une petite faute, ça y est, tu me parles comme ça. » Mais David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Point. Pas de contestation, pas d'excuse, rien de plus. C'est vrai, j'accepte. J'ai péché contre l'Éternel. Il accepte la sentence parce qu'il sait que son Dieu est vrai et amen. Il sait que son Dieu est juste. Et il sait que quand il condamne, c'est terminé. Et que Dieu a raison. C'est ce qui manque souvent dans notre vie. Quand j'ai péché, quand j'ai fait le mal, je suis là, je dis peut-être une petite prière du bout des lèvres. Je dis « Pardon Seigneur, excuse-moi ». Ou alors, simplement, je dis « Bon Seigneur, je vais essayer de faire un effort ». Et puis, je recommence et je retombe. Et j'accepte pas si on me dit quelque chose. J'accepte pas que le pasteur vienne me voir en me disant « Là, ce que tu fais, c'est pas bon devant Dieu. » J'accepte pas peut-être qu'un frère ancien, une sœur ancienne dans l'église vienne me voir en disant « Vraiment, je sens dans mon cœur, fais attention, c'est pas bon ce que tu fais. » J'accepte pas. Pourquoi ? Parce que j'ai l'orgueil, je manque de crainte, je n'ai pas l'humilité. David, lui, accepte. J'ai péché contre l'Éternel. Il demande même pas que Dieu se repente de son mal. Simplement. J'ai péché contre l'Éternel. C'est vrai. Je l'accepte. Combien on a besoin, frères et sœurs, de trouver l'humilité de dire j'ai péché. C'est vrai, j'accepterai la sentence de Dieu, j'accepterai la condamnation. Et vous savez quoi ? David reçoit la grâce de Dieu. Tout simplement parce que dans son cœur, il était prêt à tout accepter. Parce que dans son cœur, il était vraiment humilié. Il reçoit la grâce de Dieu et Dieu lui dit, mais aussi l'Éternel a fait passer ton péché. C'est instantané presque, on lit dans ce texte, on dirait que c'est instantané. Pourquoi ? Parce que son cœur était sincère. Et souvent le problème, c'est que notre péché, les conséquences de notre péché durent et durent et durent parce que on a tellement peu de place dans notre cœur pour dire « oui, je veux m'humilier ». On veut résister. Mais les choses passeraient tellement plus vite si seulement on s'humiliait devant Dieu. Et aussi l'Éternel a fait passer ton péché, tu ne mourras point. Cependant, comme par cette action tu as fait mépriser l'Éternel par ses ennemis, le fils qui t'est né mourra. » Alors, vous savez, beaucoup de gens sont un peu sensibles par rapport à ça et sont un peu peut-être émotifs par rapport à ça. Il faut comprendre que le coupable dans l'histoire, c'est David. Et David a simplement la conséquence de son péché. Parce qu'il a péché, parce qu'il a été loin de Dieu, parce qu'à un moment donné, il a fait ce qui était une abomination devant Dieu. Alors, son fils qui est né de l'adultère mourra. Je ne dis pas que Dieu agit tout le temps comme ça, mais en ce moment-là, David avait besoin de ça. Est-ce que cet enfant, quand il est né, je pense qu'il est parti sauvé. Il n'a rien fait, lui. Mais par contre, David a les conséquences de son péché. Et la vie de Dieu par grâce, comprenez bien, je vais dire quelque chose de très important. La vie de Dieu par grâce, la grâce de Dieu, s'accompagne parfois de conséquences. Je crois qu'il faut trouver un équilibre dans la vie chrétienne, un équilibre dans l'évangile. L'évangile de Dieu, c'est que nous ne sommes pas condamnés. Nous sommes purifiés, lavés, complètement changés, et que notre passé est effacé. Mais il y a des fois des conséquences. Si je tue quelqu'un et que je me convertis, même si je suis chrétien et que je tue quelqu'un, si cet homme est mort, que c'est fini, il y aura toujours la conséquence dans mon cœur que j'ai tué quelqu'un. Ça, on l'oublie parfois. La conséquence. Cet enfant tombe malade et il meurt. David va faire quelque chose de très spécial et après je vous promets que je vais terminer. Je sens que... Ça va, je suis pas trop long ? Il y a encore une heure, c'est bon ? J'aime bien dire ça, c'est ascenseur émotionnel. David va faire quelque chose de bizarre. Alors qu'il est là, son enfant est malade. Il sait que Dieu a dit qu'il allait mourir. Et ce qu'il va faire, il va jeûner et prier. Il veut... Pas de nourriture, pas de personne qui vient le voir. Même ses serviteurs viennent le voir en disant mais attends, il faut que tu manges, il faut que tu fasses quelque chose, tu peux pas rester comme ça. Et alors qu'ils viennent le voir, ils refusent totalement. Et là, l'enfant meurt. Les serviteurs disent ça y est, c'est fini. Déjà, il mangeait pas, il était dans un état atroce quand son fils était malade. Alors maintenant, quand il va apprendre ça, ça va être la fin pour lui. Et il voit cet échange-là, il demande si l'enfant est mort. L'enfant est mort, il se lève, il mange, il se lave. Et il va dans le temple de Dieu, dans la présence de Dieu, pour passer du temps avec lui, sacrifier. Et là, les serviteurs, ils disent « Attends, je comprends pas. Ton enfant est malade, tu pleures, tu es dans la tristesse, tu es dans un moment difficile, tu jeûnes. Et maintenant qu'il est mort, tu vis comme si de rien n'était. » Et David dit une vérité. Et je crois que c'est ça qui fait que David est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est que cette vérité, c'est qu'il dit, mais pendant que l'enfant était malade, je priais Dieu, que Dieu me fasse grâce. Qu'il me fasse grâce de ma conséquence. Mais Dieu a agi. Il est juste juge. Maintenant, c'est terminé. Je ne sais pas si je pourrais le vivre comme cela. Je ne sais pas si je pourrais réagir comme ça dans mon cœur, en voyant la conséquence de mon péché et en acceptant la sentence de Dieu. Je crois que c'est ça qui fait que cet homme était un homme qui craignait Dieu, un homme humble, un homme plein de sagesse. Parce qu'à un moment donné, il dit oui, c'est vrai que j'ai demandé à Dieu qu'il soit délivré, mais maintenant c'est trop tard. Je le reverrai là-haut. Maintenant c'est trop tard. Maintenant, Dieu est juste juge, j'accepte. Est-ce qu'on est prêt à tout accepter de la part de Dieu ? Vous savez, ce que je vous partage, on passe un peu plus loin que le lait spirituel, là. Et c'est peut-être dur pour certains à assimiler, mais ce que je vous partage ce matin, vraiment j'ai eu sur mon cœur. Est-ce que je suis prêt à connaître mon Dieu au point d'accepter parfois, entre parenthèses, la punition. Parce qu'on accepte, en tant que parent, de punir ses enfants pour leur apprendre quelque chose. Mais on n'accepte pas que Dieu, parfois, nous fasse passer par l'épreuve ou par la difficulté pour apprendre quelque chose. Et on se rebelle contre Dieu. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Et je parle pour moi le premier. J'ai besoin de pardonner sincèrement l'autre, mais aussi de pardonner sincèrement mon Dieu. Quand je lui en veux pour des choses qu'il n'a pas fait de mal, j'ai besoin de m'humilier devant Dieu pour dire oui, tu es tout puissant, tu sais toutes choses. Je sais maintenant que tu sais toutes choses et que tu agis. Un jour, alors que je travaillais avec mes parents, avec ma famille, j'étais là, je travaillais, j'étais content. Et bientôt, j'allais commencer le ministère. C'était un petit peu avant le ministère. Et je reçois sur mon cœur une pensée pendant un moment de prière. Vraiment, une pensée claire. Tu dois quitter ton travail. Ça va vous faire bizarre. Hein. Tu dois quitter ton travail et tu dois aller travailler à la poste. Alléluia. J'ai dit merci Seigneur. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'était un peu compliqué, vous savez, c'est en famille, c'est pas toujours facile. Et je vais voir mes parents et je dis, je dois quitter mon travail et je dois aller travailler à la poste. Alors vous avez bien compris, la réaction était un peu la même que la vôtre, vous voyez. Au départ, ils ont rigolé, après ils se sont demandé ce que j'étais en train de faire. Et là, je leur dis, non, mais il faut que je quitte mon travail, c'est important. Et je faisais un boulot difficile, on va dire. Je faisais le travail pour deux personnes. J'étais livreur, je livrais des matelas, des canapés, tout ça. Et je commençais à sentir aussi dans mon corps que ça allait pas super bien. Mais c'est pas pour ça que je voulais quitter mon travail. Je voulais rester avec ma famille. C'était un peu la sécurité. Et là, je me dis, bon, je vais donner un CV à la poste. Nulle part ailleurs. Je donne un CV à la poste et je reçois pas de réponse. Mince, on n'a pas de place pour l'instant. Je dis, bon, avec la foi, je vais demander à mes parents. Je dis à mes parents, voilà, il faut que je parte. Ils me disent, OK, donc tu as un préavis de 3 mois, parce qu'ils avaient encore besoin de moi quelque temps. Tu as un préavis de 3 mois, et au bout de 3 mois, tu n'auras plus aucun salaire. Est-ce que tu réalises que si tu n'es pas pris à la poste, tu vas nulle part? Tu n'as plus de salaire, tu n'as plus rien. Je veux dire, j'étais déjà marié, on avait déjà un appartement, tout ça. Je dis, oui, je veux démissionner. On ne voit jamais ça. Je veux démissionner, et je veux partir. Et là, il y a comme le doute qui s'est mis dans mon cœur. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et là, il y a eu un combat entre est-ce que Dieu est tout-puissant, il sait ce qu'il fait, ou est-ce que c'est ma conscience qui a raison? Et je commence à douter. Le préavis avançait. Et je dis à mes parents finalement, non mais on va oublier cette histoire, on va passer à autre chose. Et puis je vais me remettre à travailler pour vous. On déchire le je sais pas comment on appelle ça, contrat de démission, là, je sais pas quoi, la demande de démission, on déchire tout ça et on passe à autre chose. Et jour pour jour, on va dire, peut-être la semaine où je devais finir mon contrat de 3 mois, la poste m'appelle et dit, on a vu votre dossier, vous avez une place de postier donc dans les Hautes-Alpes. J'ai eu la même émotion que vous. J'étais là au téléphone et je dis, je suis désolé madame, mais j'ai un travail, je peux pas. Aïe. J'ai pas fait confiance en Dieu. À un moment donné, je me suis pas humilié, j'ai cru que j'étais capable. J'ai cru que j'avais raison. J'ai pas cru que Dieu était tout puissant. Et vous savez quoi? Il y a eu des conséquences. C'est arrivé, c'était la fin de l'année. En février, je me retrouve paralysé sur un lit à cause de mon travail. J'ai passé 3 jours paralysé à plus pouvoir me lever. J'ai toujours un problème de dos. Dieu me fait grâce, j'ai plus de douleur. Merci Seigneur. Dieu a compensé ma douleur. Mais comprenez que ça n'est suivi des mois et des mois de rééducation. Des mois et des mois de souffrance. Tout ça parce qu'à un moment donné, j'ai dit, non mais ma conscience a raison, c'est pas Dieu qui a raison dans ma vie. Je me suis pas humilié. Je peux vous dire, j'ai accepté les conséquences après, j'ai compris. Hein. Je me suis dit, c'est pas grave, même si je suis paralysé sur un lit, c'est pas grave. Je fais confiance en Dieu, il m'avait prévenu. Et vous savez, il y a un verset qui me touche particulièrement dans 2 Timothée 3, il est dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et souvent, on a l'apparence de la piété. Oui, merci Seigneur. Oui, prends tout dans ma vie. Oui, je t'appartiens. Et quand Dieu dit maintenant, arrête parce que tu vas avoir des problèmes. Ah non, Seigneur, je peux pas. J'ai des responsabilités. J'ai une famille. J'ai des projets. J'ai tellement de choses. Et là, l'épreuve arrive. Et même quand l'épreuve arrive, on dit non, Seigneur, tu peux pas me faire ça. Pourquoi tu me fais ça? La confiance en Dieu. Est-ce que tu as confiance en Dieu, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu es prêt à aller plus loin? À dire, même si j'ai l'épreuve. Attention, l'épreuve ne vient pas toujours d'un péché ne vient pas toujours d'un manque d'humilité ou de crainte. Comprenez bien, ce n'est pas ce que je dis ce matin. Mais parfois, c'est la conséquence. Mais même si ce n'est pas la conséquence de quelque chose, peut-être tu es dans l'épreuve, dans la difficulté ce matin, tu es dans une douleur, dans une souffrance, mais sache que Dieu est au contrôle. Que Dieu fera grâce. Si tu le laisses faire, si tu le laisses devant, si tu le laisses à la première place, si tu lui fais confiance, alors Dieu va changer les choses dans ta vie. Peut-être ça durera une semaine, un mois, un an. Mais le Seigneur a des projets de paix pour chacun de nous. Si seulement on s'humilie et on craint Dieu. Et je crois que tout ça nous amène à la sainteté. Vous inquiétez pas, la conclusion ne sera pas aussi longue que les deux premiers points. Non, simplement, je voulais juste conclure en disant que tout ça amène à la sainteté. La crainte de Dieu amène à la sagesse plus l'humilité amène à la sainteté. La sainteté, c'est un peu le Graal évangélique, vous savez. On met la sainteté à toutes les sauces. Beaucoup parlent de la sainteté, mais finalement, qui la vit ? Qui la vit réellement ? Qui peut dire aujourd'hui, oui, j'ai trouvé le moyen clair d'avoir la sainteté ? On met la sainteté, bien sûr, sur la croix, et c'est exactement ça. La sainteté vient de la croix, pas de nos propres forces, pas de notre propre manière. Mais comprenez bien que la croix sans la crainte, ça ne sert à rien. Ça ne marche pas ensemble. Il y a un passage dans la Bible qui nous dit dans 1 Corinthiens 11, versets 26 à 31, « Car toutes les fois que vous mangerez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Je crois que ce passage est un passage sur la sainteté. Quand je prends le pain, le vin, quand je suis en train de réaliser le corps et le sang de Christ, ce qu'il a fait pour moi, quand je proclame, oui, moi je suis un croyant ce matin qui loue Dieu, je remercie Jésus pour ses souffrances, je remercie Jésus pour ses blessures, je remercie Jésus pour tout ce qu'il a vécu d'atroce, mais est-ce que je comprends réellement ? Est-ce que je comprends réellement que quand je suis devant la mort, je ne peux pas le prendre à la légère ? Quand je suis devant la mort, je ne peux pas dire « Oui, je prends le pain et le vin et je recommence ce que j'ai fait juste avant. » Est-ce que je discerne le corps, le sang de Christ ? Est-ce que je discerne que par le corps et le sang de Christ, je suis guéri, je suis sauvé, je suis changé, je suis transformé ? Ou est-ce que je vis ça comme une habitude, comme simplement quelque chose de normal ? Je vais à l'église le dimanche et la semaine, je fais ce que je veux. Jésus est mort. Il a été battu. Il a souffert. On lui a arraché la barbe. On lui a craché au visage. On s'est moqué de lui. Et parfois, on prend le pain et le vin en disant, « Bon Seigneur, tu sais ce que j'ai fait. Pardon, c'est bon. » Et puis je recommence. C'est dans le corps de Christ, dans les souffrances de Christ, que je trouve la sainteté. Si seulement je crains mon Dieu, si je ne crains pas mon Dieu, alors je ne trouve rien que du pain et du vin. La sainteté se trouve au pied de la croix. Et je crois que c'est à la croix qu'on s'humilie. C'est à la croix qu'on pleure. C'est à la croix qu'on espère. C'est à la croix qu'on accepte qu'on est pécheur et qu'on ne mérite rien, qu'on n'est rien du tout. Si Dieu n'était pas venu dans notre vie, on ne serait rien. Et ce dernier verset, Proverbe 19, verset 23, « La crainte de l'Éternel mène à la vie. » La crainte de l'Éternel mène à la vie. Je vous invite à le surligner, à le souligner, faire ce que vous voulez. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Tu veux avoir la vie en abondance. Tu veux trouver la guérison. Tu veux pouvoir trouver des âmes dans ta famille, dans ton entourage, dans ceux qui sont autour de toi et qui viennent. Parce que ce passage comprend tout cela. Il y a parmi vous des malades, il y a parmi vous des gens qui sont morts, mais on peut dire morts physiquement, morts spirituellement. Il n'y en a pas beaucoup qui viennent à Dieu. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas la crainte quand je viens devant la croix. Je n'ai pas la crainte quand je pense à la croix. Vous voulez avoir la vie, le bonheur, la joie. Il suffit d'avoir la crainte de l'Éternel, qu'il soit le maître dans notre vie. On va se lever ensemble, si vous voulez bien, on va prier. Le meilleur moyen de trouver la crainte, d'être gardé du péché, de trouver l'humilité, c'est de pouvoir dire aujourd'hui, Seigneur, renouvelle la crainte. Renouvelle la crainte que j'ai en toi. Fais-moi connaître qui tu es. Donne-moi l'humilité, Seigneur. Alléluia. Change-moi. Si j'ai péché, montre-moi comment m'humilier aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Il serait bon, peut-être plusieurs prient dans leur cœur maintenant à faire cette prière. Seigneur, donne-moi cette crainte respectueuse. Donne-moi de savoir qui tu es. Donne-moi de m'humilier. Oui, c'est une prière qui doit revenir chaque jour, chaque instant. Oui, Seigneur, fais de moi un homme selon ton cœur. Aide-moi à ne pas pécher. Oh Seigneur, je te prie peut-être pour mon frère, ma sœur qui est là, qui a besoin de ta grâce. Seigneur, qui a besoin de retrouver la crainte de l'Éternel. Peut-être que il est parti, qu'il s'est à un moment donné écarté du chemin ou qu'elle s'est écartée du chemin. Peut-être qu'elle est dans l'épreuve, qu'il est dans l'épreuve, Seigneur mon Dieu. Et quelles que soient les circonstances, fais qu'on puisse avoir la crainte, Seigneur de l'Éternel, qu'on puisse réaliser qui tu es, être plus au lait, Seigneur, mais à la nourriture solide. Oh, nous te prions, Seigneur, par ton Saint-Esprit, de souffler maintenant, de guérir, de relever, Seigneur, en cet instant, que le malade soit guéri, que celui qui est peut-être dans le péché revienne à l'humilité, Seigneur mon Dieu, se repent devant ta croix. Oh Seigneur Jésus, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie. Merci Seigneur, parce que c'est par ta grâce que nous sommes sauvés. Nous te rendons gloire, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen.